Monaco avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
C'est un vrai plaisir que de marcher sur les traces du prophète tous les jours sur Beurre FM pendant ce mois de Ramadan. Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. L'imam Abdelali Mamoun est avec nous pour nous raconter cette histoire. Bonsoir, imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons donc entamé la révélation, le début de la période mécoise. Les compagnons du prophète commence à se multiplier autour de lui. Il crée un noyau dur avec ses 10 premiers à qui il a annoncé le paradis. Nous rappelons leurs noms: Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Ubaida, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Saïd ibn Zayd. Il en manque un. Talha ibn Ubaidillah. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, bref. 10 compagnons qui sont le noyau dur du prophète, et petit à petit, notamment, pourquoi on dit ces 10 hommes sont les personnages importants? Parce que ce ne sont pas des mawali. Ils n'ont pas le statut de sous-citoyens. Ce sont des notables de la Mecque, des représentants de leur tribu. Des Banu Zohra, des Banu Asad, des Banu Makhzoum, etc. Des Banu Taïm, etc. Qui se convertissent à l'islam et sont, si vous voulez, des ambassadeurs dans leur propre tribu pour propager la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'islam.
Alors, la première période de la prédication est secrète, en fait. Hein.
Tout à fait. Elle va perdre de son statut de secret le jour... D'abord, où est-ce que des compagnons vont se faire avoir, c'est-à-dire vont se faire dévoiler, parce que leurs maîtres, notamment quand c'est des esclaves, vont les surprendre en train de faire la prière ou en train de réciter le Coran, et ils vont les interpeller en disant: mais c'est quoi, qu'est-ce que tu récites, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, ils vont pas avoir d'autre choix, parce qu'ils ont été invités par le prophète à ne jamais mentir. Ils ne mentent pas. Ce sont des musulmans maintenant, ils ne mentent pas. Donc ils vont dire qu'ils sont convertis à l'islam et qu'ils sont monothéistes, mais qu'ils croient qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager de Dieu. Bien entendu, c'est notoire, se réunissent et ils voient bien entendu un énorme danger pour leur business, pour leur notoriété, pour leur statut, puisque quand ils interrogent en quoi consiste cette révélation, eh bien c'est l'abolition de l'aristocratie mécoise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notoires, il n'y a plus de mawali, il n'y a plus d'esclaves, tout le monde est au même niveau, tous les gens sont égaux comme les dents d'un peigne, l'égalité, la fraternité et la liberté d'expression est totale. Ce sont le triptyque de la République française, mais elles existaient déjà même à l'avènement de l'islam. Donc moi, j'ai aucun problème être un bon citoyen français quand je vois que finalement Napoléon, qui a repris ce triptyque là n'a tout simplement que copié sur celui de qu'a proposé le prophète à l'avènement de l'islam. C'est que c'est fini, il n'y a plus d'aristocratie, il n'y a plus de notables, il n'y a plus de ceci, tous les citoyens sont égaux devant la loi des hommes et celle de Dieu. Et donc à partir de là, les notables n'en veulent pas, ils veulent pas perdre leurs privilèges, ils ne veulent pas perdre leur suprématie et leur business surtout, parce que derrière il y a tout un commerce, il y a tout un enrichissement illégal et immoral dans lequel ils pratiquent la prostitution, le racket, le vol organisé, tout plein de choses qui sont totalement, notamment la vente de vin, de boissons alcoolisées, etc. Tout ce qui est débauché, qui débauche l'homme et qui lui fait perdre la raison et qui l'ensauvage et qui le déresponsabilise de son rôle de garant de l'ordre établi sur terre. À partir du moment où un homme est enivré, il n'est plus un garant de l'ordre établi. Il devient une source d'égarement et de désordre et de chaos. Donc ces mécois-là ne veulent pas de ce changement, de cette révolution sociale que veut imposer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la société mécoise et dans le monde. Donc ils vont tout de suite combattre, ils vont attraper leurs esclaves, commencer à les torturer. Donc Ammar ibn Yasser va se faire torturer, son père et sa mère, Soumaya et Yasser, les parents de Yasser vont se faire torturer, à tel point que, Soumaya va tellement être torturé, à la fin, Abu Jahl il va être tellement énervé qu'il va prendre une lance, il dit « Tu renies la foi de Mohammed ou je te tue ?» Et il a une lance dans la main, et elle dit non, elle dit, ashhadu an la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, ou ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et je témoigne que Muhammad est son messager. Qu'est-ce qu'il fait par rage, et par colère, et par haine? Il lui enfonce la lance dans le ventre, et il la tue. Voilà, la première femme martyre, c'est Soumaya bint al-Khayyat, la mère de Yasser, de Ammar, et l'épouse de Yasser, qui sont originaires du sud de l'Arabie. Donc, ils ne sont pas des vrais Arabes, mais quoi? Mais des Arabes de souche, venant du sud de l'Arabie.
Cette période de la prédication secrète, elle dure combien de temps, Imam Abdelali?
Elle dure 3 ans. Alors d'abord, il y a, comme je te dis, une période intermédiaire où Dieu va demander à son prophète de répandre la révélation de manière ouverte, pas à tout le monde, mais que seulement à ses proches. Dieu dira dans le verset « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » et mets en garde et avertis les membres de ta communauté, de ta tribu. Les membres de ta tribu à toi.
«
أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَشِيرَ » ça veut dire la tribu, « الْأَقْرَبِينَ » les proches. Donc il va appeler ya bani abdi hashim, ya bani hashim, ya bani abdi manaf, ya bani abdi al-muttalib, etc. Il va appeler ses cousins, ses oncles, ses neveux, ses proches à lui qui sont autour de lui, alors qu'il est sur le mont Abi Qubays. Rappelle, j'ai parlé tout à l'heure de cette petite montagne qui se trouve à côté du Safa. On parle du Safa el-Marwa, situé au sud-est exactement de la Kaaba, environ à 300 mètres au sud-est de la Kaaba. Et donc, il monte sur cette montagne, il dit « Ya Bani Abdi Manaf, ya » il les appelle tous. Ils se rapprochent tous autour de lui, y compris Abu Lahab, y compris Abu Talib, tous ses oncles et ses proches l'entourent en bas de la montagne et il crie. Et il leur dit « Si moi demain je vous dis qu'une armée va bientôt vous attaquer, sauter dessus, qu'allez-vous penser de ce que je vous dis ?» Eh bien, ils vont dire, on te croit, bien sûr. On sait que tu n'as jamais menti de ta vie. Tu as depuis 40 ans vécu parmi nous, 43 ans maintenant, et tu n'as jamais menti de toute ta vie. Et là, le prophète leur dit, écoutez, voilà, ce qui arrive, c'est que je suis le prophète de Dieu, et Dieu m'a envoyé pour vous dire d'arrêter d'adorer ces idoles-là, qui sont des pures impuretés. Ce sont des impuretés que Dieu déteste et n'aime pas. Najasa, ce sont des najasa, et que vous devez vous en débarrasser et d'arrêter de croire et de vous considérer tous comme des frères égaux devant Dieu et devant les hommes. Et là, bien entendu, qui c'est qui réagit le premier? Eh bien, c'est son oncle Abu Lahab qui lui dit sois anéanti, va crever en gros, allez, va crever. Il lui dit au prophète Tabban laka ya Muhammad. Il lui dira Tabban laka ya Muhammad, ali hada jama'atana, est-ce que c'est pour cette raison-là stupide que tu nous as réunis? Voilà comment était Abu Lahab. C'est un homme rageux, c'est un homme haineux. C'est l'oncle du prophète, mais c'est le numéro 2 dans la tribu des Bani Hashim. Il y a encore le numéro 1 qui est là, il s'appelle Abu Talib, qui est son grand frère. C'est-à-dire le maître, le seigneur de la tribu des Bani Hashim, qui protège Muhammad. Donc Abu Talib, Abu Lahab ne peut rien faire contre son neveu, parce que son grand frère Abu Talib, c'est-à-dire le chef de la tribu des Hashim, protège son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit va crever, c'est pour ça que tu nous as réunis. Tabban laka ali hada jama'atana. Et là, il se retournera devant son peuple et dira « Oh mon peuple, moi je connais mon neveu, c'est un fou, c'est un dégénéré, c'est un, il a été possédé, il est pas bien dans sa tête, ne le croyez pas, je le connais bien, etc. » Il va même le prendre dans ses bras et dire « Regardez, c'est mon neveu, je le connais. » Voilà, il dit n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Et il va réussir à dissuader la famille du prophète de se convertir à l'islam. Et, sauf certains vont commencer à se poser des questions. On commence à se poser, parce que là, la révélation commence à se répandre et à se dévoiler. Et peu de temps après, Dieu va provoquer deux événements importants qui vont tout changer. Qui vont tout changer, la situation complètement va être bouleversée. C'est tout simplement la conversion de deux grands personnages qui vont jouer un rôle pilier dans la révélation.
Des poids lourds.
Des poids lourds, qui sont des véritables poids lourds, parce que ce sont des armoires à glace tous les deux, des hommes très puissants, en l'occurrence Hamza ibn Abdel Muttalib, Asadullahi wa Asadur Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, le lion de Dieu et de son messager, et bien entendu Omar ibn al-Khattab, qu'on va appeler plus tard Al-Farouq Omar, c'est-à-dire celui qui est capable de discerner le bien du mal. C'est ces deux grands personnages, un de la tribu des Bani Makhzoum, des Bani Adi, et l'autre de la tribu de Hashim, l'oncle du prophète, qui est le cadet, notamment, des enfants de Abdul Muttalib, qui est donc l'oncle paternel du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
Qu'est-ce qu'on sait de leur conversion ?
Alors, on sait que Hamza, un jour, alors qu'il était en train de chasser le lion dans le désert, imagine le gars, il avait chasser le lion dans le désert, le gars, normal,
avec son arc et,
avec
ses flèches,
son arc et tout, ouais. Il revient sur le chemin, il passe par le quartier des Bani Makhzoum, ouais. Où se trouve Abu Jahl, puisque Abu Jahl est issu de la tribu des Bani Makhzoum. Il est en train de se vanter que un jour il était devant la Kaaba et qu'il a versé sur la tête de Mohammed une panse pleine de d'excréments de chameau. Et qu'il avait, au moment où le prophète était prosterné, il avait versé l'intégralité de la panse sur sa tête, et tout le monde s'est mis à rigoler. Et il se moquait du prophète, de Mohammed, que c'est un débile, que c'est un fou, etc., etc. Et ça n'a pas plu à l'oncle du prophète. Ça n'a pas plu à Hamza. Alors il s'est approché, il a d'abord traversé les rangs des alliés et des membres de la famille des Bani Makhzoum, et il prend son arc et il donne un grand coup sur la tête de Abu Jahl. Et le sang va même gicler, il va couler sur le front et sur le visage de Abu Jahl. À ce moment-là, les membres de la famille de Abu Jahl se lèvent pour lui prêter assistance. Sauf que là, Hamza dira: "Rudd 'alayya in istata'at." Montre-moi que tu es capable de me le rendre, si tu es capable. Montre-moi que tu as la force et la capacité de me le rendre. Et là, Abu Jahl, il a peur parce qu'il sait que Hamza, c'est un homme, oh là là, on ne peut pas l'affronter. Et il dira même à ses hommes, il ne faut pas semer la zizanie, c'est à cause de moi que tout ça arrive, je préfère calmer les choses. Donc il dira à son peuple: "Da'ou, laissez-le tranquille." Et là, il dira ensuite: "Comment peux-tu dire ça sur mon neveu, alors que moi je dis ce qu'il dit ?" C'est-à-dire, il prétend, et il reconnaît.
Il reconnaît qu'il est converti.
Voilà, et il reconnaît qu'il est converti à l'islam, alhamdoulilah.
Oui.
Non, je dis pour les deux raisons, à la fois pour avoir été arrivé et à la fois pour remercier Allah d'avoir converti Hamza ibn Abdul Muttalib pour aider le prophète. Il vient d'avouer ouvertement qu'il, sans le savoir, sans s'en rendre compte,
oui, il a avoué qu'il était musulman.
Il était converti à la religion de Mohammed.
Bon, demain on verra pour la conversion
d'Omar. Il y a quand même la suite sur Hamza avant d'arriver à la conversion.
Oui, mais là on arrive à la fin de l'épisode, Imam Abdelali. Vous réécouterez l'épisode en podcast sur beurrefm.net. Et alors oui, je voulais vous dire que si vous avez une question à poser à l'imam Abdelali Mahmoud, vous pouvez la lui poser en direct au standard de Beurre FM. Allô l'imam, c'est dans un instant, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mahmoud sur Beurre FM.
Voilà, et vous le savez, Ramadan & Co, nous sommes 30 jours avec vous. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan. Ravi de vous retrouver pendant que l'imam Abdelali Mahmoud est en train d'organiser les soirées du Ramadan, hein, de combler les places qui restent à table.
Oui, alhamdoulilah, pourquoi pas. S'il y a quelqu'un qui a envie de venir manger avec nous, nous faire plaisir de quelques mets, pourquoi pas, avec lui, il est la bienvenue. Venir voir comment se vit en live. Et en présentiel, ces soirées du Ramadan. De partir de 5h, on est là jusqu'à la rupture, Inch'Allah, bon. Et puis jusqu'à même après la rupture, parce qu'on mange ensemble ici. Alhamdulillah.
Bon, en tout cas, c'est en train de se remplir. Alors, Imam Abdelali, ce soir, l'ADEN, c'est en direct à 19h09. Comme ça, vous pourrez assister également à l'ADEN en direct par l'Imam Abdelali. Vous verrez, c'est réalisé sans trucage, hein.
Oui, effectivement, c'est en live.
Et à la seconde près, hein, Imam Abdelali.
Et alhamdoulilah, on a été ponctuel hier, les jours derniers encore.
Ouais, mais des fois, vous.
Ouais, je crois.
Ouais, voilà.
Ouais, d'accord.
Il y a une ou deux secondes de battement.
De décalage.
Alors après, ça va.
Mais là, hier, c'était bien.
C'était pile
poil. Bon, on va rester comme ça.
Ouais, bien. Et puis, dans la première partie de l'émission, eh bien, c'est Allô l'Imam. Donc, vous posez toutes vos questions à l'Imam Abdelali Mahmoud au 01 53 48 3000. Vous posez toutes vos questions. Ouais, il n'y a pas de questions bêtes. 01 53 48 3000. Même si l'imam Iral, vous posez quand même la question.
Et on y va.
Alors, nous avons alors Nadia qui nous appelle. Nadia, bonjour, bienvenue et bon ramadan.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour Nadia.
Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors, moi j'ai une question. Donc, j'ai ma soeur qui est décédée en 2008. Dans des conditions, on va dire, favorables, entre guillemets. En fait, elle est morte après avoir contracté un cancer généralisé. Et en fait, elle est morte à la Mecque. C'était un vendredi et c'était dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan.
Mashallah, mashallah.
Et je voulais savoir, en fait, quels sont les bénéfices, si je peux dire ça comme ça, d'une personne qui meurt en fait dans ces conditions.
Mashallah, Allahumma barik. Franchement, c'est ce qu'on appelle en arabe husn al-khatima. C'est la meilleure façon de terminer sa vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Que inshallah on a de l'espoir, on a toujours l'optimisme et husn al-dhanni billah azza wa jalla, les bonnes pensées vis-à-vis d'Allah azza wa jalla, que elle fera partie des gens du paradis inshallah, et que Dieu lui a voulu véritablement les lire parmi les créatures pour faire en sorte qu'elle soit qu'elle parachève sa vie de la meilleure des façons. Ça c'est certain. Donc, en tout cas, on peut avoir que du bon espoir qu'elle aille au paradis, Inch'Allah. Elle puisse même intercéder pour d'autres, pas seulement qu'elle aille. Elle y rentre, mais voilà. Qu'elle fasse rentrer avec elle d'autres personnes.
Voilà. Est-ce qu'elle peut intercéder? Ok. Est-ce qu'elle est considérée comme martyr?
Ah non, le martyr, c'est autre chose, le martyr.
Voilà.
Le martyr, c'est autre chose.
D'accord, très bien.
Le martyr, c'est une chose. Le martyr, c'est bon, c'est un accident, ça peut être... ou bien mourir sur le champ de bataille. Pour une juste cause, bien sûr.
D'accord. Très bien.
Voilà, ma
sœur.
C'est parfait.
Merci, Nadia.
Mais continue à faire des doigts pour elle. Hein. C'est pas parce que ça s'est bien fini pour elle qu'on doit s'abstenir de faire des doigts pour elle. Toujours, on fait des doigts. D'accord.
01 53 48 3000. Alors, c'est vrai qu'il faut poser une question. Alors, pourquoi une question? C'est pas que l'imam, il veut pas répondre à deux questions, mais c'est comme il y a beaucoup de gens qui attendent, c'est pour être juste avec tous les auditeurs et leur laisser la chance de pouvoir poser à leur tour leurs questions. Ousmane Timera nous a rejoint. Bonsoir, Ousmane.
Bonsoir, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien.
Très bien. Ousmane, et vous?
On est vivant. Alhamdoulilah.
Alors ça, c'est une réponse, genre c'est comme un lundi ou...
Non. Ouais. Quand quelqu'un est debout et il dit qu'il est debout, il veut dire autre chose. Quand quelqu'un est vivant et il dit qu'il est vivant, ça veut dire son cœur est vivant.
Ah,
d'accord, voilà.
Surtout maintenant de Othman Timera, ouais, là c'est...
La vie est la vie du cœur.
Le cœur bat.
Voilà, le cœur il bat, il est heureux. Il est enchanté par le Coran, par rapport à la conférence que l'on fait tous les jours sur... la sourate Al-Jin en ce moment qu'on vient de terminer, et voilà, on est enchanté et vraiment aux anges, si je puis dire. Ça fait du bien.
Donc est-ce que effectivement le prophète a bien été ensorcelé ou pas?
Non,
puisque justement elle parachève cette sourate.
Non,
non. Les mécréants ont failli.
Non,
par la fin, le dernier mot, il dit
ça, c'est la
sourate
Al-Qalam.
C'est quoi le sourate? Ah oui, sourate Al-Jin.
Mais non, moi je ne crois pas à l'ensorcellement du prophète, je crois que c'est un mensonge éhonté qu'on a mis dans notre coutume et tradition. On pourra en discuter.
Non, il est dit qu'ils ont tenté, il y a une tentative, mais ça n'a pas marché.
Alors, nous avons Adam qui est avec nous. Adam, bonsoir, bienvenue, bon ramadan.
Merci beaucoup, salam alaikum.
Alors Adam, vous connaissez le principe, vous enlevez le kit main libre, le haut-parleur, si vous voulez bien, comme ça on va mieux vous entendre.
Oui, le kit main
libre. Alors, on sait un peu mieux. Alors on vous écoute, Adam.
Adam, on t'écoute.
On n'entend plus rien du tout.
Bismillah Adam, ta question.
Non, ça marche plus.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend, va. Allez.
Pardon. Oui, donc j'ai une petite question, c'est à savoir, en fait, je vais me faire opérer jeudi, Inch'Allah. Et du coup, c'est pendant le mois de Ramadan. Et j'aimerais savoir si, par exemple, le matin, avant d'aller pour l'opération, si je peux prendre un petit cachet pour. Vous savez, c'est des pilules d'homéopathie pour le stress.
Alors, c'est une opération où vous allez être anesthésié intégralement.
Alors, c'est pas une anesthésie générale, ah, c'est une locale.
D'accord, donc c'est à quel niveau du corps ?
Merci. C'est au niveau du genou.
Le genou, d'accord.
Ils vont faire une péridurale.
Ah, d'accord, ok, ok. En tout cas, si vous restez sans rien manger par la gorge, si vous n'avalez rien par la gorge et que vous faites cette opération, votre jeûne reste valable. Si vous décidez de manger, attention, alors il faudra quand même attendre d'arriver à l'hôpital pour être sûr que l'opération va bien avoir lieu, parce que, et ça serait drôle que, voilà, vous commencez à manger le matin à la maison, vous allez à l'hôpital et qu'arrivé là-bas, on vous dit le médecin est pas là, on ajourne à une date ultérieure. Et vous aurez gâché une journée pour rien. D'accord ? Donc il faut quand même s'assurer que tout va bien se passer avant de s'engager à rompre le jeûne. Ou sinon, vous continuez à jeûner.
C'est juste de prendre des petites billes. Ouais.
Prendre quoi ?
Non, c'est juste des petites billes d'homéopathie, mais sinon...
Ça ne change rien. À partir du moment où vous avalez quelque chose, ça annule le jeûne.
Oui, ça annule. Ouais, c'est pour ça, ouais.
Mais si vous le prenez intraveineuse ou bien... de manière par les voies naturelles, etc., eh bien, vous, ça n'annule pas le jeûne.
Ah, donc ça veut dire que je peux y aller, je subis l'anesthésie, et ils me font l'opération, et après, derrière, si je ne prends pas de cachet...
Oui. La journée est normale, vous allez continuer votre journée de jeûne jusqu'au soir, et c'est tranquille, pourquoi pas, bien sûr. Vous avez respecté l'intégralité des règles du jeûne, donc pourquoi on devrait penser que ça annule, même si vous faites une opération. Mais vous, étant donné que vous êtes malade, est-ce que vous avez le droit de rompre ? Oui, parce que là, c'est quand même péridural, c'est pas quelque chose de si lourd. Hein. C'est une lourde péridurale, imaginez, c'est dans la colonne vertébrale, c'est pas une opération anodine. Donc si le médecin vous dit non, il faut que vous buvez ou vous fassiez quelque chose, prenez des médicaments, etc., par voie orale, vous cassez votre jeûne et voilà. D'accord ?
Voilà, dame.
Allah Shafik, à la Koulihal.
Anissa est avec nous au 01 53 48 3000. Anissa, bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum.
Salam alaikum, je voulais poser une question à l'imam.
Alors, enlevez la radio, si vous avez la radio. Non, Anissa, si vous avez la radio d'allumer, je veux bien que vous l'enleviez.
Je l'éteins. Bah,
c'est mieux.
Voilà, excusez-moi. Alors voilà, parce que c'est une question qui m'a été posée par ma fille, je suis en train de lire sur le portable. Alors, si le qarin est à l'intérieur du corps humain ou à l'extérieur, s'il existe vraiment...
Le quoi ?
Le qarin, qu'est-ce que c'est que le qarin ?
Ah, le qarin, ah,
oui. En islam.
Nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Voilà, le qarin, quelqu'un, c'est une entité qu'Allah Azzawajal, d'après un hadith qui nous dit que chacun a son propre diable. Hein, et le prophète a dit que moi, mon diable, j'ai même réussi à le convertir, d'après certaines versions. Mais en tout cas, on a tous un qarin, effectivement, qui sont des démons. De la même manière qu'on a des anges protecteurs, on a aussi des démons tourmenteurs qui peuvent nous tourmenter. Notamment quand on est dans la prière, on est tourmenté, etc. On a le khanzab, le fameux khanzab, qui est le shaitan spécialisé dans le tourment de la prière, qui tourmente les gens, les waswas, qu'on appelle les waswas fi salat. Donc, sahab, shayatin al-waswasin daiman mujudin. Il y a toujours des shayatin waswasin. Daiman insan yasta'id billah azza wa jal. À partir du moment où tasta'idina billah min ash-shaytan rajim, wa tadhkurin Allah azza wa jal, ces qarin, ils s'en vont. Ils partent, ils ne restent pas près de vous. Vous êtes entouré à ce moment-là que par des anges, notamment par le ta'awud. Une scène est ta'awud, mais le shaitan de rajim. Et à ce moment-là, les qarin et les shayatin s'éloignent et il ne reste présent que les anges. D'accord ?
Après, il y a. Je ne sais pas. Si, madame avait, est-ce que madame a fini sa question déjà ?
Je suis là.
Vous avez terminé votre question ?
Non, j'ai la suite de la question.
Et pourquoi vous éloignez de votre combiné ? Restez à côté de votre téléphone, ma soeur.
Vous savez pourquoi ? Parce que la question m'a été posée par ma fille qui n'est pas là. Elle m'a été posée et je voulais qu'elle vous écoute en même temps.
Oui, mais posez donc. Finissez votre question, parce que je devine qu'il y a autre chose.
Oui, il y a autre chose, oui, effectivement.
Allez-y.
La deuxième. Deux minutes.
Dépêchez-vous, ma soeur, parce qu'on n'a vraiment pas le temps.
Est-ce que tu m'as dit une âme ? Que tu m'as dit ? Est-ce que dans chaque
Non, c'est pas à l'intérieur du corps. Hein, c'est pas à l'intérieur du corps. Il ne possède pas le corps, le djinn. Hein. Il est à côté. Il est autour de nous, mais il n'est pas à l'intérieur de notre corps. Hein. On n'est pas possédé hein, par le.
D'autant que le passage dont que le cheikh a bien voulu nous citer dans la sourate Fussilat parle du fait de ceux qui se détournent de Dieu et qui le nient en reniant Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'ils soient en fait les potes et les amis en fait de d'autres démons qui eux aussi ont nié Dieu et il y a une sorte de communication, des révélations qui se fait entre eux, sans que d'ailleurs l'être humain en soit conscient. Mais quelquefois on a des gens qui sont tellement loin dans la négation de Dieu qu'ils ont toutes les idées extraordinaires pour faire le mal.
Alors le verset coranique, il faut être précis, Othman, il ne parle pas de renier Dieu mais c'est être dans l'insouciance du rappel de Dieu. Yu'arid an dhikri ar-Rahman wa laysa an iman bir-Rahman. Bon. Le fait d'être dans, ne pas être dans le rappel. Et donc c'est pour cela que le rappel, c'est justement ces invocations que le musulman va respecter avec assiduité, notamment quand il sort de la maison. Le prophète nous a enseigné des du'as contre les shayatins. Wa'idu nafsi bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Les shayatins sont là, ils existent, ils tourmentent l'être humain. Et donc le croyant, même un musulman, peut être tourmenté. C'est pas celui qui est seulement mécréant, mais même un musulman qui se détourne du rappel et qui oublie de faire des invocations peut être victime et la proie des shayatins. Donc il faut surtout jamais oublier d'être dans le rappel, dans le dhikrullah, dans le dhikr et dans le du'a de demander refuge, chercher refuge auprès d'Allah contre ces démons.
Allez, d'autres questions dans un instant au 01 53 48 3000. Je rappelle qu'à 18h nous retrouverons Kamel Chekat pour sa chronique Les contradictions supposées du Coran.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM.
Voilà, et Ousmane Timera qui est avec nous, le boucher Wadi de l'atelier de la viande nous a rejoint. Bonjour boucher Wadi.
Bonjour tout le monde, bonjour Manu, bonjour Philippe, pardon, bonjour, salam alaykoum l'imam. Salam alaykoum à tout le monde.
Vous avez vu voilà. Ça, je me fais appeler Manu, c'est ça.
Ah, j'étais avec lui il y a deux minutes.
En fin de carrière, vous voyez ce qui vous arrive.
Je suis passé lui dire bonjour.
Vous avez vu ça, il s'impose partout, Manu. Imam Mounir. Allez, 01 53 48 3000.
Moi aussi, il a contaminé Philippe.
Allô l'imam, alors on a Katia qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Katia.
Bonsoir, bon ramadan également, merci. Oula, il y a un écho.
Alors, peut-être enlever le haut-parleur ou le kit main libre, Katia.
Alors, c'est bon.
C'est bon, on vous écoute, on vous entend bien.
Il y a toujours l'écho, je pense. Non, ça va.
Non, c'est bien.
Je vous appelais concernant la zakat et le mel, s'il vous plaît, parce que j'ai un gros souci. J'ai une société, mais je n'ai pas d'informations claires pour sortir ma zakat et le mel.
D'accord. Alors, c'est très simple. Il y a deux conditions pour s'acquitter de la zakat. Il faut que cet argent il soit en votre possession pendant une année révolue, d'accord, et que cet argent est atteint un seuil minimum qu'on appelle le nisab et qui équivaut à la valeur de 85 grammes d'or au prix du marché de l'or, d'accord. Et ça c'est ce qu'on appelle le minimum zakatable, c'est-à-dire le minimum qui impose à une personne de payer la zakat. À peu près aujourd'hui 4700 et quelques. Ça veut dire que si vous avez 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, etc., vous avez la zakat à payer. Et que cet argent, vous l'avez bien entendu, gardé pendant un an. Eh bien, cet argent-là, vous devrez verser 1 sur 40, l'équivalent de 2,5%, tout simplement.
Vous parlez du bénéfice, c'est ça ?
Non. Le capital, ce qui a été thésaurisé, l'argent thésaurisé, l'argent mis de côté, pas les bénéfices. On parle de bénéfices, c'est quand l'argent, il travaille. Là l'argent, il travaille pas, il est mis de côté. Il est épargné, si vous voulez. Le terme exact, c'est thésaurisé. Tu viens du mot trésor. Ça vient du mot kenz.
Alors, Katia, quelle est votre situation à vous ? Alors, vous êtes commerçante vous,
Non, je suis dans les formations de la beauté.
D'accord.
Et donc, voilà, j'ai ma société. Et c'est vrai que je n'avais jamais pensé sortir la zakat là-dessus.
Mais attendez, il n'y a pas de zakat sur la société. Qui a parlé de zakat ? Il n'y a pas d'argent. L'argent, oui, l'argent que vous gagnez, si c'est à vous, et que vous l'avez mis dans un compte à vous, ou du moins vous l'avez ramené, je sais pas moi, ou en liquide, vous l'avez ramené à la maison.
C'est l'argent de la société. Oui. L'argent de ma société.
D'accord, j'ai compris. Mais cet argent-là, vous le dépensez. Il y a un roulement. On est d'accord.
Oui,
donc vous achetez. Attendez, vous vendez des soins ou bien des produits de beauté.
Des soins et des produits.
Ah, alors, pour ce qui est des soins, il n'y a pas de zakat. Pour ce qui est des produits de beauté, c'est ce qu'on appelle en arabe « urud tijara », c'est-à-dire des marchandises commerciales. Et là, la règle, n'est, bien sûr, est à peu près la même que la zakat el-mal, puisque là, on n'appellera pas ça zakat el-mal. On appelle ça « zakat urud tijara ». Et « zakat urud tijara », c'est sur la marchandise qui a, bien entendu, atteint une année révolue, qui a tourné une année. Et là, pareil, c'est pas sur les bénéfices, c'est sur la marchandise et la trésorerie qui va avec, la trésorerie de la marchandise, hein, pas des soins, pas du travail et du service rendu du personnel qui va, par exemple, soigner le visage, je sais pas quoi, des femmes qui vont, les clientes qui viennent dans le magasin. On parle pas de ça, on parle de la marchandise vendue, achetée et vendue. C'est-à-dire, vous achetez une marchandise à un prix, vous la revendez à un prix, bien entendu, supérieur, c'est ce qu'on appelle le bénéfice, c'est le bail. Et ça dure comme ça toute l'année. Au bout d'un an, vous devez calculer la totalité de ce que vous avez en trésorerie et la marchandise que vous avez en stock et en magasin. Et la totalité, vous divisez par 40 et vous versez ça aux pauvres. Ce qu'on appelle urud tijara. Zakat, urud tijara. Et ce n'est pas sur les bénéfices, c'est sur la marchandise elle-même et la trésorerie qui va avec. Mais la trésorerie du roulement de commerce, c'est-à-dire celle qui sert à acheter et revendre les produits. D'accord ? Pas ce que vous donnent les clients pour les soins que vous leur faites grâce à vous-même qui travaillez ou bien des salariés que vous avez dans votre centre de beauté.
Est-ce que ça répond à votre question, Katia ?
Oui, si vous pouvez me donner juste un rappel pour le côté personnel, alors.
Comment ça, le côté personnel?
Son argent à elle, qui n'est pas
2,5% tous les ans. Si vous, ça, écoutez, par exemple, un exemple. En janvier 2023, vous aviez, allez, je donne un exemple, 50 000 euros de côté. Et durant l'année, vous avez fait rentrer de l'argent. D'accord. Cet argent qui rentre au cours de l'année, est-ce qu'il a une année révolue? Non. Par contre, les 50 euros en janvier 2023, ils ont une année. Donc, en janvier 2024, je verse sur 50 000 euros. Mais par contre, en janvier 2024, je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai par exemple 70 000, un exemple. Hein. J'ai 70 000. Eh bien, au cours de l'année, j'ai encore de l'argent qui va rentrer. Eh bien, s'il y a de l'argent qui rentre, eh bien, je ne les prends pas en compte. Je ne prends en compte que les 70 000 qui, eux, ont une année révolue. Les 70 000 qui auront une année révolue. Maintenant, si je perds de l'argent, par exemple, si j'avais 70 000 en début d'année, et ça descend à 60. À la fin de l'année, je n'ai plus 70 000, mais 60 000. Donc, il n'y a pas 70 000 euros qui ont une année révolue, il y a 60 000 seulement qui ont une année. Donc, je verse que sur 60 000. D'accord ? Puisqu'il faut avoir les deux conditions que sont le nisab, bon là, on l'a atteint quand on a dépassé les 5 000, et l'année révolue. L'argent doit être en votre possession depuis un an. Et non pas de l'argent qui sort et qui rentre. Par exemple, vous dépensez, vous rachetez, etc. Imaginons, moi j'achète une voiture et pas pour faire du commerce mais parce que je l'aime bien, j'ai trouvé une voiture sympa, une bonne affaire, j'ai acheté une voiture, j'ai roulé avec 2 mois, après je l'ai revendue, c'était pas du commerce, c'était simplement une voiture, une opportunité. Eh bien il n'y a pas de zakat, il faut relancer le compte à rebours au moment où je revends la voiture et que je me retrouve avec du capitaux et de l'argent. Là je relance le compte à rebours pour un an. Et si je les garde pendant un an sans les dépenser, là, je verse la zakat. Si je les dépense, il n'y a pas de zakat. D'accord ? La zakat sert à encourager les gens à la consommation et à éviter l'épargne. Parce que c'est l'épargne qui pourrit l'économie. C'est la consommation qui permet la production. La production qui fait baisser le chômage. Voilà, c'est ça. C'est une économie que si la France et même d'autres pays l'utilisaient à bon escient, eh bien, il n'y aurait plus de chômage. Parce que les gens consommeraient plus, donc produiraient plus, donc moins de chômage, donc emploi, qu'on appelle ça ? Emploi total.
Plein emploi.
Plein emploi, voilà. Plein emploi,
cherche. L'imam, il a dit, il faut faire circuler l'argent.
Il faut le consommer.
C'est ce qu'il a dit.
Pour produire, pour que ça va créer de, mmh.
Faut que ça circule.
Faut qu'il y ait de la demande. Voilà.
Merci Katia pour votre question. Allô l'imam, d'autres questions dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co, revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timera qui est avec nous, Jamila Delila est là au 01 53 48 3000. Jamila, bonsoir, bienvenue, bon Ramadan.
Bonsoir, cher merci. Voilà, moi j'ai juste une question qui revient toujours. C'est la prière assise. Hier, j'ai entendu une femme qui a posé la question et vous lui avez répondu que Fanat n'est pas une femme, j'ai Jaysa. C'est que le problème, moi j'ai 62 ans et je fais la prière, ça fait très longtemps. Et c'est mon médecin qui m'a demandé de faire assise parce que j'ai un problème de dos, une scoliose et un peu de tout, l'articulation, et le problème de genoux et cheville. Et hier, quand j'ai entendu que sa lettre n'est pas M. Jaysa, donc j'ai essayé de la faire debout.
Alors, je crois que vous n'avez pas tout entendu. J'ai dit hier que pour la personne qui n'a aucun handicap, qui n'a aucun problème de santé, ne peut pas prier autrement que debout. Mais si
oui,
vous dans votre cas.
Non, mais vous, madame, vous êtes dans une situation. Votre médecin lui-même vous a dit que vous ne pouvez pas prier debout. Donc ça veut dire vous êtes dans une petite difficulté.
Elle ne peut pas se prosterner.
Dieu prend en compte la difficulté.
D'accord.
Il faut que vous ayez en tête ce principe. Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Dès lors qu'il y a difficulté, il y a une levée de la part de Dieu. Quant à l'obligation, c'est-à-dire que vous le faites comme vous le pouvez.
D'accord.
Faut pas forcer plus que ça.
Oui, parce qu'hier j'ai entendu ça, j'ai dit
Vous avez pas tout entendu. Hier, il y a une dame, elle dit moi je travaille, elle veut prier dans son lieu de travail alors qu'elle est en bonne santé, mais parce qu'elle n'a pas d'endroit où prier, elle veut faire assis sur sa chaise tout en faisant penser à ces gens.
Non, j'ai bien suivi, je suis accro avec vous chaque année, d'ailleurs pour l'émission, voilà. Mais hier,
Mais madame, comprenez la chose suivante.
J'ai eu même équilibre, j'allais tomber. Et j'ai dit, bon, il faut que j'ai eu la chance de vous avoir aujourd'hui.
Inch'Allah.
Madame, ayez cette règle en tête. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent les règles derrière les réponses. Comme ça, ça les évite, en fait, de reposer les mêmes questions. Dès que c'est compliqué, Dieu vous dit, laisse, allège. Tu peux pas le faire debout, fais-le assis. Ne peux pas le faire debout, ça veut dire, je peux pas me tenir debout.
Okay.
Mais Dieu ne va pas vous forcer à faire au-delà de vos forces.
Oui, hier, j'ai failli tomber.
Il ne faut pas tomber, madame.
Donc c'est ça. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance d'appeler. Peut-être j'aurai la chance. Et finalement, Dieu m'a aidé.
Ce qui est bien, madame, c'est que vous marchez ou pas? Vous vous déplacez?
Oui, je marche, d'accord. Mais je suis tout le temps chez le kiné.
Non, mais Khalina Melkini, je vous parle chez vous. Vous vous déplacez à la maison?
Oui, je marche,
Et vous faites votre vaisselle, votre ménage, tout ça?
Oui, je fais,
D'accord, donc ça veut dire que vous arrivez quand même
pas,
à vous...
Je monte pas.
Ça veut dire que vous arrivez à vous tenir debout. Vous arrivez à vous tenir debout.
Oui.
Bon,
oui, ça
ce qu'on va dire, écoutez, dans votre cas, vous mettez une chaise derrière vous. Vous vous mettez debout, et puis il y a la chaise derrière vous. Vous mettez debout, je dis bien debout. Vous dites Allahu Akbar et vous commencez la prière debout. Dès que vous sentez que vous allez mal, dès que ça va mal, eh bien vous vous asseyez.
Je peux m'asseoir.
Vous vous asseyez, vous continuez assise, d'accord?
D'accord, très bien.
Voilà.
Très bien. Merci, je vous remercie. Juste, j'aimerais bien une dawa pour mon foyer.
الله يحفظكم ويجعلك الله ينزل عليكم البركات والخيرات ويجنبكم الشياطين ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
آمين. Merci beaucoup, cher. ربي يعاونكم.
جميعا.
آمين. صحان بلاكم صحة فطوركم.
عليه. يسلمك يا أختي مع السلامة.
سلام.
Merci, Jamila. Bon, alors c'est trop juste pour prendre un autre auditeur, mais on prendra d'autres appels dans un instant. Si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, eh bien, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Mais c'est l'heure, avec une petite minute d'avance, d'accueillir Kamel Chekat qui est avec nous. Kamel Chekat qui est chercheur en théologie et membre fondateur des Oulémas du Sahel. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Kamel.
Salam
alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marha.
Et comment on va de Monsieur Robichon?
Très bien, Kamel.
Le frère Robichon.
Je vais très très bien.
Bah dis donc, t'es le frère Robichon.
Bah voilà, ça va mieux. En le vendredi, je suis le frère.
Allah en va faire.
Il va peut-être venir un cheikh avec vous. Avec toute l'histoire qu'il y a encore, il va cumuler du savoir.
Mashallah, allez, cheikh.
Enfin.
On y va.
Allez, donc, pour ce qui est de la contradiction supposée d'aujourd'hui, elle concerne tous ces versets que certains appellent des versets du sabre dans le Coran, ce qui n'existe pas, et je vais l'expliquer. Alors, généralement, nous avons tendance à défendre notre religion et à montrer aux gens que c'est une religion pacifique, et même pacifiste, et qui fait, même à travers l'histoire, c'est une religion qui ne s'est pas propagée par les pieds. Toutes les thèses qui ont été soutenues dans ce sens sont des thèses fausses, et l'histoire est là pour rectifier la chose. Alors voilà, déjà, quand on parle de combat ou de guerre, ce que nous appelons djihad dans le Coran n'est pas synonyme de guerre sainte. Ce concept n'existe pas chez les musulmans et n'a jamais existé. Mais concernant le combat, le Coran nous le présente comme une guerre extrême que la nature humaine n'apprécie guère, elle aborde carrément. J'ai dit dans Sourate Al-Baqara, au verset 216, le combat vous a été prescrit alors qu'il pouvait être désagréable. Or, parce que par moments, il peut s'avérer nécessaire si vous êtes, par exemple, dans le devoir de défendre votre pays. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, Fermat qui sait, alors que vous ne savez pas. Et c'est pour cette raison, et conformément à la nature humaine, le sens est penché beaucoup plus pour la paix que pour la guerre, que le messager de Dieu, al-Salam, a dit, c'est dans ce que rapporte Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, ne souhaitez pas de rencontrer l'ennemi. Et une fois que vous l'aurez rencontré, montrez-vous patient. De notre côté, nous avons d'autres commandements dans le Coran, par exemple le verset 7 et 8 de Sourate Al-Mumtahana, là où Dieu nous dit et équitable envers ceux qui ne nous ont pas combattu de la religion et ne nous ont pas chassés de vos bénins, car Allah est véritable, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu de la religion ou en religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Et même si le musulman s'engage dans un conflit avec quelqu'un, il y a un certain nombre de mesures parmi lesquelles celle citée dans Sourate Al-Maïda au verset 8, là où il est dit aux croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins stables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alors face à toute cette logique, on nous sort des versets, mais qu'on prend de manière parcellaire, c'est des segments de versets, dans la majorité des cas aimant des versets, qui incitent comme ça au combat. Par exemple, un verset, il est dit, « Et punez-les où que vous les rencontriez, chassez-les, d'où ils vous ont chassé, l'association est plus grande que le meurtre. » Et là, autant les détracteurs du Coran, ceux qui sont en quête de contradiction, que les théoriciens des groupes terroristes, vous sortent ces versets et vous les balancent de cette manière et vous dites que ces versets que nous sommes en train de vous citer sont des versets qui ont abrogé tout ce que vous avez entendu auparavant. Déjà, pour ce segment de versets que je viens de citer, il faut savoir que ceci est le début du verset 181 de Sourate Al-Baqara. Donc en le citant, beaucoup oublient de citer ce qui le précède et ce qui le suit. Si on part du verset 190, il est dit « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car certes Dieu n'a pas les transgresseurs. » Puis vient ce verset 191 qui dit « Tuez-les en parlant des agresseurs qui ont débuté les hostilités ou que vous les rencontriez, chassez-les d'où ils vous ont chassé, etc. » Donc il est à chaque fois on nous sort comme ça des bribes de versets pour essayer de légitimer, alors pour ceux qui sont dans cette voie qui est celle du terrorisme, on veut légitimer ces actions. Pour ceux qui sont des détracteurs, on veut juste vous peindre en personne assoiffée de sang et amatrice de meurtre. Donc, en fait, tous ces versets donnent aux saints qui ont des commandements qui concernent la gestion de la paix et la guerre, pas plus ni moins. Et l'histoire est là pour le démontrer, et comme le disent bon nombre de grands historiens orientalistes, les musulmans ont été assez puissants à un moment donné de l'histoire pour pratiquement éradiquer le judaïsme et une bonne partie du christianisme. Là, les églises d'Orient, elles étaient très très loin d'Europe, et on aurait facilement pu effacer ces religions dans cette partie d'Orient, et elle n'aurait pas été telle qu'on la connaît aujourd'hui, alors que les églises sont toujours debout, les synagogues et même d'autres obédiences qui existent, par exemple en Irak, etc. Donc il n'y a pas de contradiction entre tous ces versets. La chose suit une logique tout à fait naturelle. Les gens sont censés être pacifiques. Et s'il y a lieu de faire face à une agression, eh bien, ils font face à cette agression, pas plus ni moins. Voilà donc pour la contradiction supposée d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et puis à demain.
Shukran barakallahu fik, Seigneur Rabbi Havdak. Merci beaucoup pour ces éclairages. Très pertinent.
Kamel Sheka, tous les soirs de ce mois de Ramadan sur Beurre FM. Merci Kamel et on vous retrouve demain. Allez, 01 53 48 3000, vous êtes nombreux au standard. Alors, nous avons Samira qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Samira.
Bonjour.
Bonjour, salam alaykoum, Samira. Marhaba.
Alors, allez-y. Moi, j'avais une question parce que je dois partir prochainement en Jordanie et je voudrais savoir si on a le droit de se baigner dans la mer morte.
Moi-même, je me suis baigné dans la mer morte, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Alors c'est lié au fait parce que au sud de la mer Morte, il y a ce qu'on appelle la ville de c'est en vrai c'est Gomorre, c'est
ça, ouais,
approche-toi du micro.
Ah, pardon.
Ouais. Oui, effectivement. Donc non, il y a rien qui
alors, c'est quelle ville qu'il y a déjà pour qu'on comprenne. Mais,
côté Jordanie, côté Amman, dans la partie près de Amman, c'est ça? Voilà, non, il n'y a aucun problème.
Mais pourquoi en êtes-vous venu à vous poser cette question?
En fait, j'ai entendu, après c'est sur Internet, et j'ai lu que certaines personnes disaient que c'était interdit de se baigner sous prétexte que le peuple de Lot aurait été enseveli dans cette région.
Alors, c'est dans la partie sud. Et il ne dit pas de ne pas se baigner dans la mer morte. Il dit qu'il est interdit de rester, de se sédentariser, puisque le prophète, quand il est passé par cette région-là, a demandé à ses compagnons d'accélérer le pas parce qu'il considérait ce lieu-là comme un lieu maudit. Voilà. Mais c'est le lieu, pas la mer elle-même. C'est à côté. D'accord. C'est à côté de la mer.
Okay.
Voilà. Lors de la bataille de Tabouk.
Je vous rassure, on s'est posé la question il n'y a pas longtemps.
Ouais, c'est par rapport quand il est passé devant la demeure des Samoud.
Voilà.
Qu'il a accéléré le pas. Mais voilà. Il est vrai que, en fait, c'est pour ça, pourquoi je vous pose cette question, d'où vient cette question? Parce qu'en fait, il faut qu'on ait un cadre méthodologique. Les gens doivent comprendre que si c'est pas formellement interdit dans le Coran par le prophète sur lui la paix, c'est licite.
Non, parce qu'on lui a dit, c'est pour ça,
ouais,
vous l'avez vérifié.
C'est vrai.
Donc la réponse est, allez-y ma sœur, il n'y a aucun problème, c'est même très bon pour le corps. Il a beaucoup de vertus que de se baigner dans la mer morte. Il y a beaucoup de vertus pour la peau, par exemple le rhumatisme, etc. Il y a beaucoup de vertus intéressantes. Je vous dis moi-même, je me suis baigné en 2020 là-bas.
Alors, c'était la réponse à la question de Samira. Merci.
Et même mon père avec moi.
C'est vrai?
Ouais. C'est sympa.
Vous avez des photos peut-être à nous montrer?
Oui, il y en a. Je crois que je vais en voir ça sur mon ordinateur. Si.
Bon. On fait ça à l'heure du repas?
On verra.
Bon. Allez, il y a Abdel qui est avec nous. Ça va être dur.
Ah, ça va être dur. Des sages?
Oui, jusqu'à la fin de la soirée, ça va être compliqué. Alors, Abdel est avec nous. Abdel à Toulouse, au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan, Abdel.
Bonsoir, bon Ramadan à tous et à tous les auditeurs et ceux qui ne nous écoutent pas non plus, d'ailleurs.
Alors, oui. On vous écoute.
Alors, ma question, elle concerne Zakat al-Mal. Je souhaitais savoir, donc j'ai compris tout à l'heure qu'en fait, bon, je schématise, si vous avez 100 000 euros qui ont été placés pendant un an à la banque, on va dire épargnés, bien que j'ai bien compris qu'il faut mieux les dépenser, Mais
Non, on n'a pas dit qu'il est mieux d'aider. J'ai pas dit ça. J'ai dit, tu veux les mettre de côté, t'as le droit. Mais si tu les mets de côté, tu payes zakat. Voilà, c'est tout. Mais il n'a jamais été pour cela un encouragement à dépenser l'argent. La dépense de l'argent, elle se fait grâce au fait qu'il y a la zakat. Mais il n'y a pas le fait d'être déconseillé de mettre de l'argent de côté. On a le droit de mettre de l'argent de côté. Et voilà, tu veux mettre de l'argent de côté, pas de problème. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Donc il y a simplement le fait qu'on doit s'acquitter de la zakat tout simplement parce qu'on a thésaurisé de l'argent. Thésauriser le terme exact. Puisque épargner c'est quand on thésaurise pour avoir des intérêts. Et ça c'est autre chose.
Alors ça vient alors la deuxième étape arrive. C'est 100 000 euros vous avez épargné pendant un an, vous devez 2500 euros de zakat.
Voilà, c'est ça. Bon. 2,5%.
Cet argent-là, vous avez décidé maintenant de l'investir, je ne sais pas, dans l'immobilier, par exemple, pour acheter une maison.
De quoi, les 100 000, les 100 000 ou bien les 2500?
Non, les 2500, on les a...
Ça y est, on les a donnés à des pauvres. À des pauvres, à personne d'autre, c'est des pauvres. « Wa fi amwalihim haqqum ma'loum lissaili wal mahroum » للفقراء والمساكين فقط ماشي المسجد ولا الأئمة ولا c'est pour les pauvres ou bien les associations qui vont redistribuer aux pauvres.
Il y a les 8 catégories.
Oui, mais on va dire en priorité d'abord tant qu'il y a encore des pauvres, ils sont prioritaires. Et puis il y a les amilin alayh, on va dire ceux qui travaillent aussi dans ce domaine. Naam, vas-y, tfadal akhi.
La deuxième année donc cet argent-là, on le dépense, on l'investit.
D'accord.
Dans un bien immobilier par exemple, mais ça peut être autre chose, mais bon. Donc pour, je sais pas moi, pour de la location, pour une maison secondaire, on les a plus ces 100 000.
Oui.
On les a plus, disons,
en nature, en argent. Oui.
En argent.
Il n'y a pas de zakat. Il n'y a pas de zakat.
Il
n'y
a pas de zakat.
Par contre, il peut y avoir zakat non plus sur l'argent que tu as dépensé pour acheter un appartement. Mais si tu le mets en location et qu'il y a une location, donc une entrée d'argent qui est liée à la location, tu devras à la fin de l'année payer 2,5% de l'allocation après avoir payé toutes les charges. C'est-à-dire, d'accord, tu enlèves, tu déduis toutes les charges, il n'y a que le bénéfice de cette location, 2,5% de ce résultat. D'accord ? Sur l'allocation. Mais si le bien, tu l'utilises toi pour habiter dedans, ou tu le prêtes à quelqu'un, ou rien, ou tu fermes la porte, il n'y a personne qui est dedans, il n'y a pas de zakat.
C'est ça, ok, c'était ma question.
Voilà, très bien, Allah est sahel.
C'était la réponse de l'imam. Merci Abdel. Alors, nous avons Abdelhak qui est avec nous.
Abdelhak. Vas-y, dis-le, Philippe. T'arrives à le dire?
Comme il a dit l'imam.
Abdelhak.
C'est comme l'imam dit.
Falhak ou alhak aqoul. Bismillah. C'est l'être de la gorge, c'est dur pour Philippe, il a du mal. On y va. Bismillah Abdelhak, tfaddal.
Allo, salam alaikum.
Alhak, ça veut dire la vérité. Dieu est la vérité, par excellence.
C'est bien ça. C'est bien ça. Salam alaikum. Salam.
Et wa gunna al-haq, Abdelhak. Bismillah, tfaddal.
Alors, moi j'ai une question toute simple. Je suis en fait. Je ne fais pas le ramadan pour des raisons de santé. En fait, j'ai été opéré à plusieurs reprises, malheureusement. Je porte un pacemaker. Je porte un pacemaker. Donc, j'ai eu des problèmes cardiaques à plusieurs reprises. Donc, en fait, les avis des médecins, il y a des médecins qui me disent vous pouvez le faire. Et d'autres qui me disent vous ne devriez pas du tout le faire.
Mmh. Est-ce que vous avez essayé?
J'ai déjà essayé.
Et alors?
Ça dépend les jours.
Ben écoutez, moi ce que je vous invite, à partir du moment où vous avez des médecins qui ne vous déconseillent pas le jeûne, eh bien moi je vous invite à commencer tous les jours le jeûne, et que dans la journée, si ça se passe mal, vous arrêtez.
Très bien.
Si vous avez des pincements au cœur, ou une crise, ou je sais pas moi, ou des malaises, ou des vertiges.
Parfois, en fait, j'ai des troubles de vue, j'ai des.
Ça peut justifier le fait d'arrêter le jeûne.
Est-ce qu'il faut attendre d'avoir mal pour arrêter? Ou mieux vaut-il pas? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement éviter d'avoir mal?
En vrai, c'est au cas par cas. On peut pas donner un jugement comme ça. Moi, ce que je dis d'abord, c'est il faut d'abord avoir l'opinion d'un médecin. Par exemple, s'il était là, ça serait génial. Comment il s'appelle notre Mekadem là? Mekadem.
Ouais,
Walid Mekadem.
Ça serait bien
si on avait un docteur, on pourrait avoir une réponse fiable à te donner. Mais on a l'absence de l'avis médical qui nous empêche de répondre de manière religieuse. Vous comprenez, mon frère?
Mais il y a aussi son ressenti. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois aussi, les gens sont au courant de leur propre corps. Vous devez savoir vous-même quelles sont vos limites. Et si vous sentez que bah non, là c'est pas bon du tout et que je suis en mauvaise santé, bah faut pas gêner, faut pas forcer.
Oui, oui, ça peut être aussi une manière de voir les choses.
En attendant, bien sûr, l'avis de plus spécialiste.
Non. Très bien.
Allah est chef, croyez.
Merci Abdelak pour votre question. Dans un instant, vous le savez, on a tous rêvé de changer le monde. C'est la chronique d'Ousmane Timira.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et tous les soirs, on rêve de changer le monde avec Ousmane Timira.
Oui, nous rêvons tous de changer le monde, comme disait le rappeur. Et Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il a en lui-même. Je voulais parler d'un sujet, mais je vais le mettre de côté, car la France est raciste. J'assume le mot. Je parle pas des individus. Mais je parle d'une politique islamophobe de plus en plus évidente, claire, manifeste, qui ne peut supporter aucune forme d'interprétation indulgente. Ne pas se réveiller, c'est laisser les futurs trains emmener un paquet et un tas d'individus vers des destinations, à Dieu ne plaise, qui seront des plus terribles. Si l'histoire ne se répète pas, l'histoire se bégaye. Et il y a des traditions en Europe et en Occident qui ont la peau dure. Lorsqu'il y a crise, on trouve toujours des boucs émissaires à massacrer ou à vilipender ou à insulter. Il est aujourd'hui évident, et il y a des enquêtes qui le prouvent, qu'un nombre important de musulmans diplômés, c'est souvent les diplômés qui voient la chose venir de très très loin, comme auparavant les juifs bien installés et diplômés ont vu la chose de très très loin et sont partis vers les États-Unis. Eh bien ce sont ces musulmans diplômés, nous disent les rapports, qui, nombreux, quittent la France. Et nous sommes dans une situation où donc ceux qui ont grandi dans ce pays, ceux qui ont aimer ce pays, ceux qui ont respiré ces airs, ceux qui ont vibré dans les moments de bonheur du pays, se sentent obligés de quitter la France, tout simplement parce qu'il y a des individus à l'esprit colonial, dont la casquette coloniale n'a pas encore quitté les souvenirs et le cerveau, qui osent dire que à eux seuls appartient ce pays et que ceux qui ne sont pas de la même couleur de peau ou ceux qui ne sont pas de la même religion doivent être, s'ils ne sont pas comme leurs parents, nos esclaves et ceux qui nettoient nos toilettes, doivent être expulsés du pays. On interdit maintenant à des musulmans de jeûner quand ils sont footballeurs et on laisse faire cela et on continue de regarder les matchs de foot. Et des joueurs musulmans continuent de jouer. Jusqu'à quand allons-nous continuer de nous faire écraser de la sorte sans réaction intelligente et stratégique? Entre les assassinables que nos frères sont devenus dans les quartiers populaires, se faisant canarder comme au cirque par une police irresponsable, j'assume le mot. La police, c'est pas certain. C'est l'institution qu'il faut ici, aujourd'hui, incriminer et questionner. Car tant de personnes tuées par an de façon volontaire et continue n'est que la signification d'une institution. Il y a des gens qui sont facilement assassinables et qui sont vécus comme tels et vus comme tels. Revenons donc à notre question. N'est-il pas temps que nous réfléchissions sur la manière de guérir notre société de ce mal qui gangrène nos liens et nos relations, et qui, si nous ne faisons pas attention, en laissant les pyromanes qui sont à la tête de ce pays, si on les laisse faire, c'est la destruction même du pays qui aura lieu. J'assume le mot. Il faut mettre les mots là où il faut. Il y a du racisme qui est organisé, des injustices qui permettent d'expulser des personnes qui n'ont aucun crime à leur compte sous prétexte qu'ils ont utilisé un mot que d'aucuns, certains en haut, n'acceptent pas pour faire plaisir à d'autres qui, dans l'injustice, pensent qu'il est mieux d'expulser le noir ou l'arabe d'à côté
même si son salaire n'est pas augmenté, même si lui ne sort pas de la pauvreté, même si lui ne sort pas de la crise, du moment que l'autre qui est en face nous soulage de par son expulsion. N'est-il pas temps de faire preuve de générosité? N'est-il pas temps de faire preuve de force? Ceux qui aujourd'hui agissent ainsi ne croient pas en la France. Ceux qui agissent ainsi ne croient pas en la victoire de la France. Ce sont ceux qui, hier, ont accompagné les nazis dans la défaite étrange de la France. Et ce sont ceux-là qui, aujourd'hui, n'acceptent pas la force de la France telle qu'elle est dans sa diversité et pensent que la France n'a pas assez de force pour accueillir tous ces gens. Tous ces gens qui l'aiment parce qu'ils font le choix de venir jusqu'à elle. Tous ces gens qui l'aiment parce qu'ils vivent dans ce pays et qu'ils ont bu son histoire, compris ses valeurs. Ils croient en cette devise qui est chantée tout le temps. Mais est-ce que nos élites croient en cette devise liberté, égalité, fraternité? Je ne le pense pas. On nous interdit de jeûner. Mes chers amis, si vous continuez de regarder les matchs de foot, mes chers amis, si vous continuez à jouer au foot dans vos matchs et que vous ne boycottez pas, eh bien, ils iront encore plus loin. Comme ils sont allés plus loin aujourd'hui qu'hier. Moi, j'appelle clairement à ce que tous les musulmans qui jouent dans le tournoi français fassent une grève et fassent tomber le championnat de telle sorte qu'ils se rendent compte que sans nous, il ne fonctionne pas. Moi, j'appelle les musulmans qui regardent les matchs de foot et tous ceux qui sont outrés par une telle injustice de boycotter les matchs de foot. Et nous verrons qui gagnera. Mais mes chers amis, vous êtes dirigés comme vous êtes. Et celui qui se comporte comme un mouton qui ne se plaint pas d'être égorgé dans un coin plus tard. Êtes-vous mouton ou des êtres humains dignes? À vous de voir.
Bravo.
Ousmane Timira, bon, vous reverrez la chronique sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Je vous rappelle que tous les soirs, eh bien, vous êtes gâtés grâce à Mo le patron.
Mais moi, je vote Timira pour les élections présidentielles.
Alors, quelle année?
Timira, président.
Oh, président Barbès. Non, on verra, Inch'Allah. Pas en tout cas président, j'ai trop peur pour ma vie dans l'au-delà. Mais il faut que nous fassions triompher les valeurs et les candidats qui défendent ces belles valeurs.
Inch'Allah, oui. Ouais,
c'est encore plus impactant quand on est en face et qu'on l'entend parce que ça vit vraiment. Hein. Moi, je sais que c'est la première fois que je l'ai vécu là en direct et c'est incroyable, c'est vrai, c'est hyper profond.
D'habitude, vous écoutez la radio, Wadi.
Oui, mais là, en direct, là, je veux dire, c'est autre chose.
Merci beaucoup.
Alors, tout est en direct hein, dans l'émission, il faut le dire. Hein.
De mes yeux, Philippe.
Voilà, hein,
même la ZAN.
Même la ZAN est en vrai direct.
Ah, oui. Voilà.
C'est en vrai.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas en direct.
Ah, c'est vrai.
Il y en a plein qui m'ont dit.
C'est un enregistrement, alors que tous les jours, je fais la ZAN différemment. Volontairement pour bien que les gens comprennent que voilà, c'est pas toujours les jours pareil.
Il a du coffre,
même,
hein,
bien
il a
en
du
direct
coffre,
avec hein. vous et qui fait la danse en live.
Il a du coffre.
Du coffre, je sais pas, mais en tout cas, on essaie de diversifier la danse.
Et sinon, l'auditeur VIP tous les soirs, c'est en direct, hein, c'est un vrai.
Aussi, pareil.
C'est un vrai auditeur qu'on connaît
et
pas.
Moi, le patron qui
existe.
Il existe, il est à Cergy, à Mantes-la-Jolie.
Il est à Ogny, à Buchelet, ouais, à Aucamville et à Tourcoing. Voilà, Abdelali, voilà. Et je vous rappelle que tout à l'heure, eh bien, au top départ, vous pourrez téléphoner au 01 53 48 3000 pour repartir avec une télé 32 pouces connectée ou alors un aspirateur, un robot aspirateur d'une valeur de 200 €. Vous en profitez également pour télécharger l'application Molpatron. Molpatron, bah, c'est souvent 50% moins cher que les prix qui sont généralement constatés chez la concurrence. Il sera bientôt avec nous d'ailleurs, Molpatron viendra manger avec nous un soir.
Inch'Allah, avec plaisir.
Voilà, il pourra
c'est
avoir...
Abdelhadi ou bien c'est Mohamed?
Non, les deux.
D'accord, bah très bien.
Voilà, les deux. Ils viendront vérifier que le réfrigérateur qu'ils ont livré à l'imam fonctionne bien.
Fonctionne bien, oui.
Allez, 19h09 en direct, l'ADN sur Beurre FM ce soir.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM. Vision. Le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux.
Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin.
Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdant. Mais c'est Allah votre maître, il est le meilleur des secoureurs.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eût montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants.
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Rappelez-vous, quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous, le messager vous appelait. Alors, il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait « Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ?» Dit « L'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. » Dit eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent.
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
Ô les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. 30 jours avec vous.
Voilà, Boucher Wadi nous a rejoint. Alors quand je dis Boucher Wadi, hein, c'est Wadi.
Wadi, faut frotter la gorge, Philippe. Si tu frottes pas la gorge, il y a pas le Wadi.
À force de me frotter la gorge, je finis par avoir un gratounette.
Ouais. Un abcès.
De l'atelier de la viande à Paris, on l'a vu grandir. Voilà, maintenant, ça fait partie des bouchers qui comptent sur la place de Paris. On parlait des décades en termes de Ramadan, mais en termes de consommation pendant le mois de Ramadan, il y a aussi des décades, hein. Il y a aussi des, alors pas des modes, mais il y a des grandes tendances.
Exactement, donc là on est en train de rentrer dans la deuxième décade, et là je commence à voir que les puristes de Shorba et Brick commencent à éliminer tout doucement, et ils commencent à se dire tiens, je mangerais bien des sushis, ou je mangerais bien un kebab. D'un coup,
ils veulent essayer autre chose.
Voilà, ça commence à arriver.
C'est-à-dire qu'au-delà du dixième jour, les gens ont un peu...
Petit à petit, la soupe ça va pendant 10 jours de suite, donc on a envie aussi de changer. Et c'est là que moi j'interviens à la boucherie, parce que on commence à faire beaucoup plus de cuisson, beaucoup plus de préparation. L'objectif c'est de faciliter, surtout dans une ville comme Paris où personne n'a le temps. Et de plus, il faut qu'ils goûtent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Mais toujours cette période-là, pour moi, depuis bientôt 7 ans où je suis à mon compte, je la trouve incroyable. Parce que c'est à ce moment-là que les gens vont se lâcher sur plein de choses. Et c'est à ce moment-là que moi, en boucherie, j'essaye de créer des nouveautés et qui permettent aux gens de goûter, parce que de base, c'est l'habitude quoi, que les gens prennent.
Alors, on parle quand même de la crise. Est-ce que les gens, par exemple, au début du mois de Ramadan, étaient là comme d'habitude?
Alors, ils étaient moins là avant.
Ouais.
Ils ont fait exprès de faire attention par rapport au budget. Mais lorsque le Ramadan a commencé, pour moi, cette année, on a eu quand même les clients qui étaient au rendez-vous. Parce que le Ramadan, c'est une priorité dans l'année. Et je trouve ça intelligent qu'en janvier, ils aient freiné leur consommation de viande pour pouvoir avoir de la viande de qualité en
ouais. On mange bien pendant le mois du Ramadan.
Au moins, on se dit, ce mois-là, on va avoir des vitamines.
Alors, la première décade, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend? On vend de la viande hachée
La première décade, c'est shorba, brick, viande hachée, escalope de poulet. Il y a un client, allez, sur 10 clients, 8 prennent de la viande hachée et de l'escalope de poulet. Et, bien sûr, des morceaux pour la soupe, soit de la poitrine d'agneau ou des tranches de gigot coupées en morceaux pour accompagner la harira ou la shorba. Mais ça, c'est primordial. Moi, j'ai une personne qui a la viande hachée pendant les 10 premiers jours, parce que ça enchaîne.
Qu'est-ce qu'on pourrait, justement, si on voulait changer les habitudes dans la soupe, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme viande à laquelle on pense pas et qui, justement, donne du goût et qui soit bonne pour la santé?
Aujourd'hui, j'encourage aussi les gens à ne pas hésiter à mettre du poulet. Du poulet, lorsqu'on va faire des... Là, on a bu beaucoup de harira, de shorba. Si on part sur des bouillons, alors, soit on va faire des bouillons d'os avec les os à moelle, qui sont très bien et conseillés pour la santé, ou on va faire avec les ailes de poulet. Les ailes de poulet, c'est pas très cher. Ça permet aux gens d'avoir un morceau de volaille tendre. Et de plus, je parle chez moi, nos ailes sont charnues, c'est des ailes de poulet bio. Ça permet d'avoir une soupe pas très chère et ça change.
On fait shorba baïda.
Ouais,
Non, shorba baïda, c'est la shorba blanche, c'est
ouais,
ça
ouais.
Mais vous la faites avec quoi, vous, la shorba baïda?
Je la fais pas très souvent, mais c'est vrai que j'aime bien. Si je tombe dessus, je mange.
Du poulet avec du veau, non?
C'est vrai, c'est plutôt avec une viande blanche, c'est vrai. Ouais.
Moi, de base, je sais que pour harira ou shorba, c'est agneau, donc viande rouge, ou bœuf pour harira. Et là, on est sur les morceaux... Les morceaux qui vont cuire assez longtemps, quoi, et très tendres.
Mais le veau, c'est un peu plus cher pour la soupe, non?
Moi, avec, on va dire, à côté de moi, j'ai l'eau à la bouche, quoi. J'ai la salive qui est en train de. Comment tu fais, toi, pour.
Bah, écoutez.
Non, mais on va mourir avec toi. Faut pas que tu restes à côté de nous, sinon, le mois du ramadan, ça va être une folie. En tout cas, quelqu'un qui veut acheter de la viande chez toi, c'est où?
Alors, l'atelier de la viande se trouve au 55 rue Claude Decan, à Paris, dans le 12e.
Donc, Decan, ça s'écrit?
D-E-C-A-E-N.
C-A-E-N.
Voilà, Decan. D-E-C-A-E-N.
D'accord. Et on trouve de tout là-bas. C'est magnifique.
Alors les gens sont invités à venir goûter, ceux qui connaissent pas.
La charcuterie, c'est une tuerie.
Ouvert 7 jours sur 7, le dimanche après-midi pendant
la charcuterie, doit dire.
Mais c'est haram la charcuterie.
C'est halal 100%.
Ça c'est même certifié. C'est très important, ouais. Ça va aussi avec le bio et
non, là,
on a un
qualité, goût, il y a tout. Ouais. Le halal, il y a tout est garanti.
Au niveau de, par exemple, d'un produit comme le saucisson qui n'était pas très réussi pendant longtemps, maintenant, je veux dire, au niveau de la qualité, c'est incroyable le saucisson.
Là, on est passé.
Il y a une révolution du saucisson.
Là, c'est une autre planète. Avant, on mangeait du cachir. Le cachir, je répète, qui est autorisé pour les musulmans, mais qui est interdit aux chiens. C'est important, j'aime bien le répéter ça. À tous ceux qui mangent du cachir.
Vous expliquez?
C'est de la viande séparée mécaniquement.
Ouais.
Il n'y a pas de viande dans le cachir.
La
VSM. Ouais. C'est des os qui sont broyés, qui créent une pâte. Cette pâte, on la met dans un boyau en plastique. Et après, on nous la vend. Voilà, c'est exactement je suis allé à l'essentiel. Le cachir. Le cachir n'est pas bon pour la santé. Le cachir, mettez du ketchup si vous voulez, ça va vous aider peut-être à faire passer le goût, mais c'est pas bon. Il faut pas manger du cachir. Je le déconseille à 100% aux gens. Achetez un bon saucisson. Allez chez un boucher, chez un artisan, une personne qui va faire son saucisson ou au moins on va avoir 80% de viande.
À l'atelier, par exemple.
Non, mais quand on dit
ils sont les bienvenus
chez
moi.
Quand on dit aux gens achetez votre saucisson et quand on dit achetez votre saucisson à beaucoup de musulmans, pour beaucoup il y a encore un doute.
Chacun. Fait ce qu'il veut. On parle bien sûr d'un saucisson 100% halal.
Ouais.
Moi, je suis l'atelier de la viande, c'est une boucherie halal certifiée depuis des
années. Il faut encourager ces producteurs de produits halal. Il faut que nos musulmans, se disent, voilà, il y a un produit qui est proposé sur le marché. Je l'essaye. Qui ne tente rien à rien, j'essaye, je goûte, et puis voilà, je deviens un consommateur bienveillant et qui en même temps se soucie de plaire à Allah Azzawajal tout en se faisant plaisir. La charcuterie, c'est délicieux quand elle est bonne.
Exactement, changer ses habitudes. Je comprends, c'est un budget. C'est ce que je répète à tous mes clients. C'est un budget, mais si on mange moins, on mange mieux.
Et que, surtout que les animaux soient bien traités.
Exactement.
Parce que nous, on a une façon très bizarre de comprendre le halal, c'est l'animal a été maltraité comme jamais, mais la forme est là, on l'a égorgé, il y a la Mecque, on a dit bismillah, et puis voilà.
Non, mais il faut distinguer la responsabilité du producteur et la responsabilité du consommateur. Othman. Le producteur qui va mal élever ses animaux, eh bien, c'est normalement à l'État d'intervenir. Les poulets en batterie, tout ce qui est ces trucs-là, là, qui sont une horreur pour ces animaux, ou les animaux qui sont malmenés dans les abattoirs, ou qui sont conditionnés dans des conditionnements horribles, où les animaux souffrent. C'est pas la faute du consommateur,
non, c'est à l'État. Faute, mais
c'est à nos élus. C'est à nos élus d'agir.
Oui, mais il y a aussi pour imposer des lois
pour responsabiliser ça.
Regardez la force de la communauté musulmane qui pousse des enseignes comme Carrefour et autres de mettre du halal. C'est parce qu'ils voient qu'il y a une force.
Moi, je boycotte Carrefour, j'achète pas.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Carrefour, il faut boycotter.
Ici, Carrefour n'a pas attendu les élus. C'est la force du non, parce qu'on a exigé qu'on ne voulait pas manger leur viande et qu'on voulait manger la viande qui nous concernait. Hop, ils ont décidé de faire en sorte que ce soit cela. Je dis que les musulmans qui, au nom de leur religion, disent qu'il y a certaines catégories de viande qu'ils ne mangent pas, eh bien, il fait partie de ces catégories-là de viande qu'on ne mange pas. C'est celle de l'animal maltraité. S'ils imposent aussi ça par la consommation.
Mais l'imam ne peut pas rendre illicite ce qui est illicite.
Non, mais je ne parle pas de.
L'animal illicite. Qui a été maltraité. Et qu'on l'a égorgé.
Je parle pas d'illicite.
Dans des bonnes conditions. L'égorgement, l'abattage a été fait dans de bonnes conditions et dans lequel on a respecté les règles. Eh bien, la viande est halal.
Oui, mais ça, c'est la limite, avec tout le respect que j'ai pour eux, des fuqaha et des juristes. Je parle pas du halal et du haram, en fait. Je parle de notre force. De éthiquement parlant, un animal qui est maltraité, on ne doit pas le manger, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'attendre un halal ou un haram ici. C'est de dire, écoute. Faites en sorte que les animaux soient bien traités. On est 5 millions, voire plus de musulmans. Si on a cette conscience-là, je vous promets qu'ils vont changer leur production.
Moi, je suis à 100% d'accord. Ouais. Voilà, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le client qui a sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est d'être conscient. Demander au boucher d'où provient la bête. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens voient halal affiché. C'est une garantie à 100%. Halal, c'est un tampon. Hein. C'est une étiquette qu'on peut coller. Mais lorsqu'en face de nous, on a un musulman conscient qui va vendre de la viande avec éthique, on est dans nos droits. Et c'est ce que je dis à tous mes clients lorsqu'ils me demandent excusez-moi par rapport. Je dis, mais il me dit, je me sens gêné. Je dis, mais vous avez le droit. Et c'est normal de demander elle provient d'où la bête? Est-ce qu'elle a été nourrie à l'herbe? Est-ce que toutes ces questions-là, elles sont légitimes? Déjà parce qu'ils cherchent la qualité, ils achètent un certain prix chez moi qui est un peu plus élevé que les autres. Mais je répète, n'hésitez pas à demander. Nous, on est là pour ça, à l'atelier de la viande. À chaque fois que vous avez, vous, des questions par rapport à la traçabilité de la bête, par rapport à l'élevage, c'est normal de demander. Ne vous contentez pas que du halal. C'est normal, la viande est 100% halal. Mmh. Mais on pousse un peu plus. Et moi, je leur dis oui, elle est bio aussi. Vous voulez savoir, il n'y a pas de pesticides, pas d'antibiotiques, du plein air. Et de là, on essaye de les amener vers une logique où, qualitative. Quoi.
Après, sur le marché de la viande, il y a plusieurs catégories de bouchers. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les bourses.
Exactement.
Voilà. Parce que les gens aussi achètent un prix en fonction de leur budget, leur famille. Voilà, c'est donc.
Mais en tout cas.
Parce qu'Ousmane, c'est compliqué, par exemple, quand on a un budget un peu serré.
Non, je ne parle pas même avec le peu de budget que nous avons, avoir cette conscience de savoir ce qui rentre dans ma bouche. C'est le béaba de la spiritualité. Tous les grands hommes spirituels faisaient attention à ce qui rentrait dans leur bouche. C'est le béaba. Maintenant, effectivement, en fonction de nos budgets, en fonction des possibilités. Mais il y a une sorte d'omnubilation sur la technicité halalite, en oubliant l'éthique qu'il y a derrière. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que c'est haram, hein. Mais bon, un peu de conscience, quoi.
Moi, j'ai vu l'évolution.
Il y a un verset du Coran qui parle d'interdire justement les viandes qui sont illicites. Qu'est-ce qu'il dit ? Hurrimat alaykum al-maytatu. Dieu vous a proscrit la viande morte, le sang, et la chair de porc. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Bon, ce qu'il a été égorgé autrement que pour Dieu. وَالْمُنْخَنِقَةُ. Qu'est-ce que ça veut dire الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُنْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ. Ce sont des animaux.
C'est qui sont égorgés de bêtes mortes.
Ouais, mais qui sont des bêtes mortes. Ouais. Mais pourquoi Dieu précise autant de détails? Tout simplement parce que c'est aussi des bêtes maltraitées. Qui ont abouti à être justement Monkhaniqa, Monkhouda, Moutaraddiya, etc. Donc c'est en même temps pour dénoncer, Dieu dénonce ces chairs d'animaux qui ont été maltraités et que l'on ne peut pas consommer.
Bien, top départ. Vous voulez être le véritable important auditeur de ce soir. Vous pouvez commencer à nous appeler maintenant au 01 53 48 3000. On ne prendra que les appels qu'on appelait à partir de maintenant. 01 53 48 3000. Bon, Boucher Wadi, on va profiter d'ailleurs de votre présence. C'est vous qui serez chargé ce soir de désigner le verré important auditeur.
Ah bah avec grand plaisir.
Alors on va attendre que voilà, faut que ça se charge, hein, faut que ce soit des nouveaux. Alors, un numéro entre 1 et 6.
4.
Et c'est la ligne numéro 4. Alors, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous monsieur?
Je m'appelle Bilal.
Bilal. Alors, enlevez le haut-parleur ou le kit main libre parce que vous êtes très loin, Bilal. Voilà.
Là, vous
entend un petit peu, mais vous nous appelez d'où, Bilal, ce soir?
Le 20e.
D'accord, ouais. À Paris. Donc, en tout cas, félicitations parce que c'est vous l'auditeur VIP de ce soir.
Ah, merci beaucoup, je suis content.
Bon, ça fait longtemps que vous appeliez ou vous avez pris à la dernière minute? Alors, Bilal.
On entend rien.
Est-ce que Bilal est là? Non. Alors, on n'entend plus Bilal.
Allô?
Voilà. Bon. Alors, Bilal, c'est qu'on a quand même un ADN à lancer, donc il faut. Voilà. On va essayer de vous garder jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous voulez passer un message ce soir, Bilal?
Je passe un message à tous les musulmans. J'ai des Sahartoikum et Saharmbankum. Et je passe un message aussi de dire à tous nos frères de faire des doigts à nos frères de Palestine.
Voilà. الله يفرج عليهم ان شاء الله يا رب الله يفرج على اخواننا في فلسطين وفي غزه خاصه
ان شاء الله ان شاء الله
شويه بس يبارك
فيك
bien alors qui c'est qui est avec vous ce soir Bilal?
Là moi je travaille, je suis VTC, là je suis en route pour rentrer chez moi et je suis tout seul dans la voiture.
Bien,
bon courage. Et à la maison qui c'est qui t'attend là-bas?
Il y a ma mère et il y a mes neveux et ma sœur.
Très bien, Inch'Allah. Donc vous savez que le repas est prêt alors?
Mmh. Ouais, il est prêt déjà. Mais je serai un petit peu en retard. Là, il y a des bouchons. Mais bon, j'ai l'habitude.
Bien. Alors, vous êtes plutôt télévision ou aspirateur? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Bilal?
En fait, je viens de déménager. Maintenant, j'habite dans le 13e. Et je me suis dit, une télé.
D'accord.
Une télé, ça serait parfait.
Voilà, une télé 32 pouces. Voilà, connecté, qui sera bientôt chez vous, Bilal. Merci en tout cas.
Merci.
Félicitations d'avoir été l'auditeur VIP. Et bon appétit pour ce soir.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفناء حي على الفلاح الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة. سكسو داري ما يختا داري. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
كل طاقم برفامي يتمنى لكم شهية طيبة. صحة فطوركم.